Tu as une vision qui est, selon moi, qui est encore plus dure que tous les tyrans de l'époque.
Donc il faut la dictature.
Je vais répondre. De quoi ?
Ça a commencé ! L'émission a commencé ! Ouais.
Et salut à tous, nos BG Galbés. Aujourd'hui, on va faire une vidéo d'analyse de deux débats qui ont eu lieu très récemment avec monsieur Julien Rogy qui s'est rendu au crayon et à la librairie africaine. Et en ce moment, il mouille le maillot pour le FC Droitard parce qu'effectivement, il est allé débattre en présentiel chez des panafrico, francophonico, égyptolo, wakando, racionalo, ouagadougesque, mais certainement né à Tours. D'ivoire, elle est pas mal celle-là. À la librairie africaine donc, comme j'ai dit. Alors chez les droitards, il y avait Papacito qui était allé récemment, mais au train où vont les choses. Les mauvaises langues, elles diraient qu'ils jouent à domicile là-bas. Alors moi, je rentre pas dans le débat, je suis au-dessus de la mêlée, je suis trop malin pour ça. Et puis je suis pas un provocateur moi. Et comme je l'ai dit, monsieur Rogy est également allé débattre au crayon face à un converti, un Jean Kevin qui devient un Jean Kebab. Sur internet, en général, on convertit des fichiers. Dans l'islam, en général, on convertit des fichiers.
De la savoir.
Jérôme, tu couperas ça au montage, je suis trop pâle, on va me le reprocher. Racisme anti-blanc. You know what I mean? C'est des débats intéressants. Intéressants parce que t'as vraiment des mecs qui sont des nationaux, des musulmans, des panafricains, machin, qui débattent entre eux de façon assez cordiale, sans la médiation des centristes du système ou des gens de la gauche. Donc c'est quelque chose qui est intéressant sur le plan intellectuel et sur le plan de la psychologie frontale des gens face à face. Bref, moi j'aime bien voir des débats comme ça, donc je les ai regardés et j'ai envie d'en faire ressortir la substantifique moelle. Parce qu'il y a quand même des choses qu'on peut dire de ces deux débats. On va commencer sur le débat avec les Africains. Je sais pas si vous l'avez vu, mais tout le long du débat, les Africains, alors je sais pas si je dois dire les Africains, les Panafricains, les Franco-Africains, je sais pas comment ils se considèrent exactement, mais je sais qu'ils s'habillent un peu avec des rubans, on dirait tous des ministres congolais, avec des chapeaux et tout ça, je sais pas comment ils s'identifient, on va dire les Panafricains. Bref, tout le long du débat, ils étaient pas anti-Rojdi, anti-droitard, anti-natio, ils sont pas du tout dans ce complexe des gens de gauche et tout, machin, tel que ça a été orchestré dans les médias depuis 40 ans. Et donc c'est ça qui est intéressant. Et justement, ils étaient pas anti-Rojdi, ils ont juste reproché une seule chose à Rojdi. Et je sais même pas s'il s'en est rendu compte, au fond, ils ont reproché à Rojdi qu'il parle jamais, qu'il évoque jamais de philosophes et de scientifiques noirs. C'est tout. Et à chaque fois, ils en revenaient au même point. Ils lui disaient, Rojdi, c'est bien, vous faites l'éloge de l'Europe, de ce à quoi a contribué la civilisation blanche, etc., avec vos penseurs, machin. Mais d'où vient la science moderne, hein, les Français, les Allemands, machin, tout ça, ça vient des Grecs, ça vient des Romains. Mais les Grecs, d'où ça vient? Ça vient de Pythagore et Thalès. Et Thalès et Pythagore, où est-ce qu'ils sont allés faire leurs courses, leurs emplettes intellectuelles? Ils sont allés en Égypte. En Afrique, et ils ont été briefés par des philosophes, grands prêtres, égyptologues noirs, les mecs qui avaient des secrets, grandes clés des pyramides et compagnie. Regarde même au moment de ce qu'il dit.
Analyser ne serait-ce que Pythagore, qui est quand même dans le monde occidental une référence.
Je peux en parler, c'est intéressant.
Et qui est quand même, pour le coup, connu par un nombre de personnes assez important. Parce que les termes de Pythagore, on l'apprend à l'école, on a quand même une transmission qui est quand même généralisée. On ne dit pas assez que ce monsieur, qui était un éminent scientifique, a été formé en Afrique, que des professeurs qui l'ont formé avaient le nez épaté et la peau sombre comme la mienne. Et je me dis, en réalité, il y a une sorte de coupure dans votre récit de cette période qui a existé.
Non mais quittez ici !
Sous-entendu, tout ce qui précède et cause le génie européen blanc machin truc, c'est des intellectuels noirs en partie d'Égypte qui avaient déjà chaussé les bottines du Logos. Voilà, c'est ce qu'ils essayaient de lui dire. Petite entracte, mes BG Galbés, est-ce que vous voulez faire des économies entre le 20 et le 25 janvier et manger très sainement si vous n'avez pas le temps de vous faire à manger et que vous êtes au travail? Oui, et bien vous pouvez avec YFood. 25% de réduction sur le site et 5% supplémentaire, donc 30% de réduction avec mon code philosophe-youtube jusqu'au 25 janvier, mes BG Galbés. C'est tellement pratique, vous imaginez même pas ce que c'est que ce bonheur d'avoir une boisson délicieuse gustativement parlant que tu digères admirablement bien, qui contient les 25 vitamines et minéraux essentiels au corps humain, avec des protéines, une bonne boisson à base de lait bien rassasiante, sans sucre ajouté, équilibré, nourrissant et extrêmement pratique. Les gars, moi je vais au taf tous les jours, je n'aime pas me faire à manger. Alors qu'est-ce que je fais? Je commande des YFood et quasiment tous les midis, je me fais mon YFood et je le digère super bien. Et même après, pour aller au sport, au judo, j'ai déjà assumé des entraînements de 2 heures en ayant bu juste un YFood à midi. Alors après, moi j'ai beaucoup d'énergie. énergie. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est d'essayer ça et vous voyez. Et après, vous pourrez même faire une collection. Je vais me faire une pyramide de bundles Y-Food. Il y a le pack découverte en description. Allez essayer. Là, c'est mon truc au café. Mais il y en a à la fraise, il y en a à la mangue, il y en a à la pêche. Enfin, il y en a à tous les goûts, à la vanille. On a tous une bonne raison de consommer Y-Food. Je vous donnais toutes les raisons du monde. Alors là, par exemple, on est le soir, mais j'aime boire mon Y-Food au café. T'es déjà là, l'odeur, je la sens. L'odeur, je la sens monter dans mes sinus. Encore merci à Y-Food d'être mon fidèle collaborateur pour cette année 2026. Et même Galbé, on continue la vidéo. En gros, Rojdi, il aurait mis un chapitre dans son livre Qui sont les Blancs sur les Noirs égyptiens, astronomes, je sais pas quoi. On va voir s'ils ont existé, j'en sais rien. Les mecs, ils auraient été super contents. C'est la seule chose qu'ils veulent, c'est du symbole d'intellectuels panafricains de l'époque qui ont fait quelque chose, qui ont mis leur pierre à l'édifice de l'intelligence humaine. C'est tout ce qu'ils cherchaient à dire à Rojdi, moi je l'ai perçu directement. Et Rojdi, comme il voulait pas être contraignant et pas manquer de tact, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, je ne nie pas qu'il ait pu avoir des influences extérieures d'un peu partout dans le monde, et puis après tout, l'humanité, tout ça, etc, etc, machin. Et ensuite Rojdi, il disait, de toute façon, je ne suis pas égyptologue, donc ce n'est pas ma spécialité, c'est pas à moi de le dire. Quelque part, il laisse le questionnement et ce potentiel narratif des égyptologues, scientifiques, astronomes noirs, il laisse ce narratif ouvert, mais sans se mouiller, en disant, les gars, vous m'avez invité, mais moi, vous connaissez, je suis en droitard, je suis la promo de la civilisation occidentale pour pas qu'elle tombe à plat, etc., machin. C'est pas non plus à moi de faire l'éloge des astronomes noirs égyptiens. Mais du coup, il se mouille pas, parce qu'il dit pas, ça a pas existé ou quoi, il dit, c'est pas mon sujet. Et du point de vue de Rojdi, identitaire et tout, c'est un peu logique qu'il fonctionne comme ça. Donc moi, j'ai envie de vous dire, les mecs de la librairie africaine, c'était qui ces mecs? C'était qui ces grands noirs galbés en toche qui ont enseigné Pythagore et Thalès? Moi je veux savoir, ça m'intéresse si c'est vrai, j'en sais rien, je connais pas cette période. Mais dites-le, t'aurais dû donner des blazes.
Des professeurs qui l'ont formé qui avaient le nez épaté et la peau sombre comme la mienne.
Mais là on dirait t'es timide, tu parles de façon indicielle pour lui mettre la poudre au nez. Pourquoi tu parles avec des figures de style, avec des nez épatés, man? C'est qui ces intellectuels noirs de l'époque? Il y a des sources, ils ont un nom, ils ont une adresse. Moi c'est ça qu'on veut savoir. C'est les arrière-grands-parents de Eddie Malou, qu'est-ce qui se passe? Parce que eux, si tu veux, c'est des Africains Red Pill. Ils ont rien contre les droitards, ils sont plus proches au fond de Rojdi que de Bégodo qu'ils ont reçu, et je voulais faire une vidéo aussi d'ailleurs. Mais leur truc à eux, c'est de faire la place à des grands hommes noirs, scientifiques, littéraires, philosophes et compagnie. C'est ça qu'ils veulent, c'est mettre en lumière ce type de personnages, de grands personnages noirs et africains. Et comme ils en ont marre de Lilian Thuram, parce que c'est un peu trop facile de se mettre des lunettes et de parler d'antiracisme pour se croire intelligent, comme Kémi Séba, c'est bon, on l'a vu, il est un petit peu borderline. Les pasteurs africains exaltés qui cassent la démarche en invoquant Jésus, c'est quand même un petit peu limité. Et puis comme les philosophes France Fanon, les mecs décoloniaux, de toute façon, ils ont un peu du ressentiment contre l'Europe et ça rappelle que la colonisation, c'est un petit peu limité, les gens en ont marre, ils s'intéressent pas vraiment à eux. Et ben ils veulent des grandes figures objectives de l'intelligence, de l'humanité. Voilà, ils veulent des grands Pythagore noirs. Et comme ils voient que chez les juifs il y a Einstein, Spinoza, Marx, chez les français il y a Pascal, Descartes, Pasteur, je sais pas qui, Buffon, eux leur truc c'est de se dire, attends, il y a forcément des Renois qui ont fait des trucs stylés. Et donc ils vont du côté de l'égyptologie et des pyramides. Et ils ont bien raison d'une certaine manière. Ok, il y a des pyramides rétrofuturistes, il y a eu des dynasties, des pharaons noirs, etc. Ils avaient une architecture de bâtard et forcément ils ont dû inventer des trucs stylés. Et en plus, l'égyptologie actuelle et l'histoire elle dit que effectivement Thalès, Pythagore et compagnie sont allés s'instruire en Égypte. Les mecs ils disent bah bingo, finalement l'Occident c'est grâce à l'Afrique, à cause de ces mecs en Égypte, qu'elle s'est développée et qu'elle est rentrée de plein pied dans la rationalité. Donc les mecs ils ont un coup de poker à jouer. S'ils arrivent à plaquer vraiment des noms, des mecs qu'on connaîtrait dans le narratif de l'histoire de la pensée humaine au moment où Thalès machin truc ils sont allés en Égypte, et ben ils pourraient changer le paradigme. Mais le problème c'est qu'ils sont trop timides et qu'ils vont pas au bout. J'ai envie de les aider, j'ai envie de leur inventer un philosophe africain super galbé en toge. On pourrait l'appeler, j'en sais rien, Kanta Conatesten Diopicure. On pourrait dire qu'il avait compris la quadronométrie et de la pyramide triangularisée, l'octogonométrie machin chouette, et dans sa wallet il a déroulé son business plan pour la rationalité occidentale. Quelque part c'est pas dur, tu crées une fiche Wikipédia, tu prends le nom le plus probable de l'époque. Si t'arrives pas à trouver réellement historiquement ce personnage, ces personnages, fais-le avec l'IA, enfin faites quelque chose. J'ai envie de vous l'inventer moi-même, un Renoir Galbé en toche qui inspire Platon et compagnie, parce que sinon qu'est-ce qui va se passer si vous le faites pas? T'as des mecs qui vont dire comme avec les hindous, regardez ce qu'on a dit. On a dit c'est des mecs qui sont partis du Nord, qui ont inventé les Védas. Donc finalement tout ce qui découle des Védas, ça vient des Occidentaux du Nord. Alors c'est peut-être vrai ce narratif, mais ça va être pareil avec les Égyptiens. Si vous vous dépêchez pas de plaquer des noms de Renois philosophes hyper galbés, hyper connus, on va finir par dire que les pyramides, elles ont été construites, et les grands prêtres, soi-disant africains, qui ont inspiré Thalès et compagnie, c'était en fait des Allemands qui ont émigré sous stress intense, et qui sont passés en Abyssinie par le détroit de Gibraltar, au détour d'une excursion manquée en Bavière du Sud, et voilà, vous aurez même plus la place de mettre vos philosophes noirs. Les gars, et le panafricanisme il va tomber à l'eau. Vous pourrez même pas aller le repêcher parce que vous savez pas. Parce que dans la science de l'égyptologie, de la Torah noire, Moïse était noir maintenant. Il y a des tas de gens qui sont convaincus que Moïse était noir dans tous les films. Les gars, c'est maintenant qu'il faut y aller. Inventez-nous, dites-nous concrètement quels sont vos types ultra-cognitifs et panacognitifs et métacognitifs dont vous parlez. Il faut aller... Mais moi, je comprends pas ça. Là, mon pote, quand tu dis ça...
Des professeurs qui l'ont formé avaient la peau sombre comme la mienne.
On dirait tu nous cites des mecs, des personnages dans Super Smash Bros qu'on n'a pas encore débloqué, qu'on peut pas jouer. On dirait des Pokémon dans le Pokédex dont on voit juste la silhouette et qu'on n'a pas encore rencontré dans les hautes herbes. Allez, allez plus loin. Regardez les Grecs aujourd'hui, par exemple. Si on n'avait pas toute la documentation, qu'on connaissait pas Platon, Aristote, Démocrite et compagnie, les Grecs, ils seraient considérés comme les blédards de l'Europe. Ils jouiraient pas du prestige, de la matrice civilisationnelle de l'Europe occidentale, messieurs dames. Donc voilà, c'est à vous de faire le taf et vous êtes bien partis. Quelque part, les gens, ils vous aiment bien. Donc faites-le à fond, ce taf-là. En gros, l'échange, il est tout à fait réductible à ça. Des mecs qui disent à Rushdie, ouais Rushdie, tout ça, l'Occident c'est bien, mais avoue les Noirs ils ont quand même fait partie du Logos à l'époque. Et Rushdie qui dit,
ah je ne sais pas.
Voilà, voilà, voilà. Donc voilà, moi je suis un peu resté sur ma faim de ce point de vue là. Maintenant on va parler de l'autre débat avec le musulman au crayon. Bon déjà je l'ai entendu dire que le débat il a été complètement haché, que le crayon retirait des bouts, ou apparemment l'autre s'emmêlait un peu les pinceaux sur le respect des femmes, etc. Je sais pas exactement, du coup on peut voir qu'une partie, trois quarts d'heure, c'est pas énorme dans un grand débat aussi vaste que celui-là. Mais franchement, je vous le dis, les débats interreligieux sur TikTok de qualité sont mieux que ceux qu'on a à la télé et à la pré-télé comme au crayon, parce qu'ils vont pas dans les trucs de fond, je suis désolé. Je veux dire, bon déjà ils étaient plutôt sympathiques entre eux, ils faisaient des manières, ils essayaient de voir est-ce que c'est un peu trop extrême de permettre le voile, d'avoir tel lifestyle un peu musulman en France, ça fait partie de l'identité, suffisamment française ou pas, machin, toi c'est de la dinette. Les gens ils seront jamais d'accord pour dire qu'est-ce qui doit être français ou pas, voilà. Ce qui sera français c'est ce qui va s'imposer en France, c'est tout, et ça a toujours été comme ça. Donc pour moi faudrait reprendre la base. Par exemple, à un moment donné, le mec qui dit ça à Rushdie, ouais, t'es plus extrême que tous les extrêmes de blablabla.
Tu as une vision qui est, selon moi, qui est encore plus dure que tous les tyrans de l'époque.
Rushdie, alors c'était pas, c'est peut-être pas le motif de l'ajout et tout, mais il aurait dû lire. Attends. Avant de parler d'extrémisme, de je sais pas quoi, le contenu de ton dogme, dans ton dogme, ce à quoi tu crois, qu'est-ce qui se passe après la vie terrestre? Pour les non-musulmans, la torture éternelle dans la lave, dans des chaînes, dans de la souffrance sans fin, de la torture sans fin. Parle pas d'extrémisme, déjà c'est ça, c'est la réalité à laquelle tu étais censé croire. Alors est-ce que tu crois de façon littérale à ça? C'est ça qu'il aurait fallu dire. Est-ce que tu crois de façon littérale à ça? Quand des mecs paraissent raisonner sur les sujets religieux, faut pas les interroger sur la philosophie. Ouais, le libre arbitre, l'omniscience de Dieu, est-ce que c'est bien de pratiquer comme ceci ou comme cela, machin chouette, que ce soit avec des catholiques ou des musulmans, ou des juifs, ou je sais pas quoi. C'est pareil, c'est pas ça qu'il faut lui dire. C'est, est-ce que tu crois littéralement que la personne à laquelle tu parles en face de toi, c'est-à-dire moi, ou ton voisin de palier, il va aller se faire torturer en enfer éternellement? Est-ce que tu penses que c'est la vérité? Est-ce que tu es pour la néantisation physique des gens qui quittent la religion? Voilà. Ça sert à rien de parler d'extrémisme politique, ça sert à rien de dire « ouais, le RN, ils sont d'extrême droite, ouais, c'est des fascistes ». Si dans un premier temps, on n'a pas précisé publiquement la position exacte de la personne, est-ce que tu crois que les choses les plus violentes sont à prendre au premier degré et sont littérales? Ok? Si oui, ne viens pas parler d'extrémisme, t'as plus de leçons à faire. Parce que faut que les gens ils se dévoilent dans la religion. Si tu crois pas que c'est littéral, mais que c'est à prendre au sens métaphorique, allégorique, poétique, symbolique, psychologique et tout ce que tu veux, il faut l'enseigner et le dire à l'ensemble des gens de ta communauté. Et c'est la chose la plus importante à faire en religion à l'heure actuelle. Moi, je pense que les débats interreligieux dans des endroits comme le crayon n'ont aucun intérêt si tu vas pas sur les questions de fond. Et c'est pour ça que quelque part, Jack le Fou, il énerve tout le monde, mais lui, il pose des vraies questions. Il pose des vraies questions, même si quand il parle de son amour pour l'humanisme et la démocratie, on dirait un vieux boomer d'Alain Juppé des années 70, ça il a peut-être pas compris, j'en sais rien, mais en tout cas, quand il pose des questions précises sur ce à quoi les gens croient, les gens ils peuvent plus se cacher. Quand il posait la question à Balzac, un apologète sur TikTok, il lui parlait d'homosexualité, il disait, attends mec, tu es une personne homosexuelle, elle mérite d'aller en enfer éternellement? Et ben le gars il commençait à dire, ouais je sais pas, ça dépend, je sais pas s'il va se repentir, etc, blablabla, c'est pas moi qui décide. Il dit, bah, est-ce que ça c'est des vraies questions, où les mecs tu leur demandes vraiment ce qu'ils pensent? Parce que je vois beaucoup trop des gens qui ont des croyances beaucoup plus extrêmes que certaines pensées politiques qui prêtent à l'adversaire. Attends, mais quand on dit qu'un parti politique est fasciste aujourd'hui parce qu'il a envie d'appliquer, j'en sais rien moi, la préférence nationale, alors qu'on croit à un dieu qui torture éternellement tous ceux qui croient pas à lui ou qui font pas allégeance devant lui pour l'éternité. Mais les gars, et je suis désolé, quand les croyances elles sont littérales, elles sont à prendre sur le même plan que le reste de la vie. C'est ça qu'il faut comprendre. Si on veut vraiment créer une rupture métaphysique totale et un schisme métaphysique dans l'histoire de l'humanité, il faut prendre ces questions très au sérieux. Car amen, amen, je vous le dis, il n'y aura pas de vivre ensemble possible et réel sans grande rupture métaphysique dans le cœur des croyants. Il faut pousser les responsables religieux à dire que les croyances les plus extrêmes, les plus périlleuses et les plus sujettes à la peur, à la souffrance, à la torture et toutes ces choses-là, il faut les pousser à dire que ce n'est pas réel, ce ne sera jamais actualisé et que ce n'est que du symbole. Il faut les pousser à dire ça pour que leur communauté, elle commence à le comprendre et que leur niveau de conscience progresse et s'extrait de la peur. Et moi, je suis un grand intuitionniste et je vous l'annonce, une âme bien élevée, au sens propre et au sens figuré, une âme bien élevée subtilise la brutalité du texte. Il faut, autant que possible, élever les âmes et les consciences pour alléger les textes. Et pas toujours brutaliser les textes pour essayer d'alléger les âmes. Mais cette manière de croire que les autres, que ceux qui appartiennent pas à ta communauté, à ta religion, vont absolument, nécessairement souffrir éternellement, être torturés, croient vraiment à ça, les gens qui croient vraiment à ça, c'est la plus grande tristesse de l'humanité. Je suis désolé, il y a une incompatibilité reptilienne, ontologique, quand il y a ce genre de croyances, qui ne sont possibles que par la peur. Il y a une incompatibilité spirituelle parce que reptilienne entre les gens. Et pourquoi je dis que l'incompatibilité elle est reptilienne? Parce que tout ce qui gouverne ce genre de pensée, de croire que les gens qui n'appartiennent pas à notre communauté ils vont aller en enfer, tout ça joue sur la peur. Parce que les gens ont tellement peur, certains que s'ils se désolidarisent de cette pensée, ils vont avoir le sentiment d'être dans le camp de ceux qui vont souffrir éternellement. Donc ils sont obligés de créer une scission dans leur cœur, dans leur âme, dans leur être, entre les gens de leur communauté et les autres. Et c'est ça qui rend impossible le libre arbitre, messieurs, dames. Parce que je vous le dis, que vaut de la courtoisie, un sourire, des politesses, quelques bons mots échangés quand le soir, dans le creux de son lit, on vit avec la certitude que la personne à qui on fait toutes ces amabilités va être torturée par Dieu à la fin des temps et pour l'éternité. Eh bien, ça rend les sourires factifs, ça rend les bons mots échangés raturés, les politesses performées et la courtoisie de façade. Voilà ce que ça donne, voilà ce que ça produit. Et l'esprit humain est faible. La plupart des gens sont faibles et sont soumis à leur idéologie et n'arrivent pas à remettre en question, remettre en perspective. Ils vivent dans la peur. Et je vous le dis, il n'y a que la peur insérée au plus profond de soi qui pousse à croire ce genre d'absurdité logique et morale qui est contrairement et totalement contraire à la nature humaine. Parce que dans le débat qu'on a vu, c'était du lifestyle. Est-ce que le lifestyle musulman est compatible avec la France? Mais forcément, les gens qui sont pas musulmans et qui sont plutôt droitards, machin, ils vont dire non. Les gens qui sont plutôt gauchistes, ils vont dire oui. Les gens qui sont musulmans, de toute façon, ils vont dire oui forcément, comme ça eux ils sont contents, ça les arrange. En fait, tout ça c'est une question de goût, mais on rentre pas dans les questions fondamentales. J'aurais bien aimé, mais c'est peut-être pas le sujet, et je le reproche pas de pas avoir débattu de ça. D'ailleurs, je sais pas ce qu'il pense, le mec converti, j'en sais rien. Peut-être qu'il pense pas d'une façon extrémiste sa religion, et c'est ça que j'aurais aimé savoir. Mais ce que j'aurais aimé, c'est que Rojdi le regarde dans les yeux et lui dise, écoute, dis-moi réellement, est-ce que ton voisin de palier, est-ce que moi, est-ce que le présentateur là qui anime le débat, est-ce que tu penses réellement qu'on va être torturé éternellement? C'est le contenu de ton dogme. Mais est-ce que tu crois que ça va se réaliser? Va s'actualiser dans une réalité suprasensible et à venir, mais qui sera réellement perçue avec une condition de sensation et une potentialité de souffrance et de conscience. Dis-le nous, dis-le à la France entière. Voilà, c'est ça. J'aurais aimé voir ça. Si le mec dit oui et que c'est vraiment son positionnement, son paradigme, son modèle. En plus, le mec est un converti. C'est pas un mec qui est né là-dedans et ça peut plus se comprendre, mais c'est un converti, c'est un Européen. Donc s'il croit vraiment à ça, et qu'il adhère à ça, et qu'il veut ça, quelque part, voilà. Plus besoin de parler de qui est extrémiste, etc., machin, tout ça, tout ça vole en éclats derrière la brutalité des croyances réelles. Et s'il croit pas à ça littéralement, il s'agit de l'enseigner au peuple pour parfaire et pour développer, déployer ce que moi j'appelle le grand réalignement métaphysique et spirituel des gens.
Petit ajout en post-prod, pour vous dire pourquoi je me focalise sur le châtiment éternel. Tout simplement parce que si on pousse les représentants religieux, les influenceurs à admettre que c'est beaucoup trop extrême pour que ce soit réel et que ce soit pas autre chose que du mythe, du symbole et de l'allégorie, si on les pousse à admettre ça en public, à la télé, etc., eh ben, la plupart des gens, ils auront la flemme d'être à donf dans la religion s'ils entendent ces gens dire, les responsables religieux, ah ouais, bah en fait, tu, si t'es pas dans la religion, tu vas pas souffrir éternellement. Autrement dit, comme c'est la peur qui gouverne les croyants, s'ils ont plus peur, ils auront la flemme d'être à donf dans leurs croyances, tout simplement. Tout simplement. Parce que malgré tout, les influenceurs, les représentants religieux, même s'ils croient pas parfois à l'enfer, ils l'utilisent comme menace implicite pour faire en sorte de ramener les gens. C'est le meilleur moyen de dire, ah bah une fois maintenant que t'as connu tel truc, si t'en sors, tu vas aller en enfer. Donc c'est pour ça que c'est le combat le plus important. Voilà, on continue la vidéo.
Le grand réalignement des religions abrahamiques a bientôt sonné, mes amis. Amen, amen, je vous le dis. Et ce que je dis n'est pas abstrait, hein. Alors évidemment, tout ça, le narratif abrahamique, tout ça, c'est du performatif. Alors les gens qui ne s'y intéressent absolument pas, ils vont pas m'écouter, ils s'en foutent. Et ceux qui s'identifient un peu à ce narratif, comme tout est performatif, et que ces grandes religions, c'est elles qui déchaînent les passions dans le monde, à la marge, il y a un peu l'hindouisme, le shintoïsme, le taoïsme et tout ce truc comme ça, mais c'est des religions sympathiques, asiatiques, elles sont tranquilles dans leur coin en fait, en réalité. Mais la grande religion qui s'est divisée en trois blocs, avec un bloc minoritaire mais influent que sont les juifs, et deux grosses religions majoritaires que sont l'islam et le christianisme, la plupart des gens, ils sont encore autour de ce narratif. Et c'est ça qui prédomine dans la vie de l'âme des gens. Et d'ailleurs, même les gens qui s'y opposent, je suis désolé les gars, mais tous les apostats, tous les militants athées, ils n'arrêtent pas de penser à ça, les mecs. Je suis désolé, c'est la vérité. Tout le monde tourne autour de ça. Et je vous le dis, il y a un monde où tout cela se réaligne. Et c'est peut-être ça l'arrivée du Messie, attendue par les juifs, par les chrétiens et par les musulmans, mais BG Galbé. Et pour ça, faut faire appel à des gens qui sont quasiment des... Moi, je suis un intuitionniste, je suis quasiment un magicien de la psychologie humaine. C'est pas des mecs comme Asselineau. Vous imaginez pas à quel point un grand débat rationnel présenté par David Pujadas sur TF1 avec tous les concernés sur les positions et les croyances réelles des gens mises à nu et jetées sur la table, regardées par des millions de téléspectateurs, pourrait vraiment changer les choses. Ça pourrait vraiment changer les choses. Une seule émission de 3 heures sur la religion avec des responsables spirituels, des athées, des machins et des gens concernés, ça pourrait changer la face du monde. Ça pourrait se passer en France, à Paris, avec je sais pas qui, Gilles Boulot, Pujadas et des représentants des religions, des athées, et faire comprendre au peuple comment il est possible de se réunir autour d'une croyance commune, parce que les mecs, ils ont 3 religions, c'est la même. Le Messie, 3 Messies, c'est le même. Une grande émission présentée par Pujadas avec des antagonistes sur l'enfer, sur ce qui est promis aux gens qui partagent pas ta vision, ta religion. Comprendre les non-dits, les haines refoulées entre les communautés, entre les religions, etc. Parce que je suis désolé, mais il existe un monde en France où t'as des gens qui cohabitent, qui se voient au quotidien, qui sont parfois potes. Imagine tes potes avec une personne, ça fait un an que vous bossez ensemble, vous avez des fous rires ensemble, etc. Et à un moment, tu essayes d'en comprendre plus sur sa croyance, et elle finit par te dire, la personne, écoute, moi, ma croyance, dans ma croyance, toi, tu vas souffrir éternellement. Dieu, il va te châtier parce que, je sais pas, t'es un mécréant et tu vas souffrir éternellement en enfer. Imagine la personne avec qui ça fait un an que tu tapes des fous rires, elle te dit ça. Là, tu vas lui dire, attends. Ta religion, je croyais que c'était la morale, c'était faire des prières pour Dieu, c'était, je sais pas, méditer, machin. Et en fait, tu crois vraiment que la réalité, c'est que moi, avec qui t'as passé un an, tu sais que je suis une bonne personne, je suis sympa, machin, tu penses que je vais être torturé éternellement. Et là, il y a des personnes, elles seraient capables de dire, ouais, bah écoute, oui, je pense que c'est comme ça que ça va se passer, écoute, moi je t'aime bien d'un point de vue terrestre, mais après tout, voilà, c'est la logique, si c'est Dieu qui le veut, c'est Dieu qui le veut. Qu'est-ce que vous penseriez d'une personne qui pense ça de vous? Et qu'est-ce qu'au fond d'elle-même, la personne, elle pense d'elle-même en pensant ça de vous? Est-ce que c'est pas une déviance sectaire? Est-ce que la religion, on peut pas l'embellir? Est-ce qu'on peut pas la comprendre de façon plus subtile? Est-ce qu'il est possible d'avoir envie d'aimer quelqu'un dont tu crois qu'il sera châtié pour l'éternité par un Dieu qui est extrêmement bon? Et là, je parle pour toutes les religions confondues, même si on pense plus à une qu'à l'autre, parce que voilà, il y a parfois plus de littérarité par certaines personnes, pour certaines croyances. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Donc moi je suis pour une grande émission gigantesque de 5 heures, une grande psychanalyse religieuse à âme ouverte et à ciel ouvert. Et c'est peut-être à ce moment-là, si cela se passe ou quelque chose comme cela se passe, à ce moment-là, qu'il reviendra sur les nuées, qu'il reviendra sur les nues pour solutionner l'équation spirituelle qui va nous faire rentrer de pied ferme dans le 21e siècle, mes BG Galbé. Alors, mes BG Galbé, aimez-vous les uns les autres. Aimez-moi également. Donnez-moi de l'argent. Oui, je suis un peu juif, moi. Voilà pour cette analyse des débats, de ce qui me paraissait le plus important dans l'un et l'autre débat. De Julien Rangy à la librairie africaine et au crayon. Je pense que c'est des débats constructifs. Mais par moments, ils vont pas au bout des choses. Après, c'est facile de l'analyser de l'extérieur. Je dis pas que j'aurais fait mieux ou que j'aurais mieux réagi ou quoi. C'est pas évident de débattre. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi ce que vous avez pensé des points principaux que j'ai abordés dans l'un et l'autre cas. Mais BG Galbé, si vous voulez des entretiens avec moi, Calendly, si vous voulez lire mes livres, c'est sur Amazon et c'est en description. Et merci à YFood d'avoir sponsorisé ma vidéo. N'hésitez pas à aller essayer et me dire ce que vous en pensez. Il y a un discount, lien en description. Merci à YFood, mes BG Galbé. Ciao, bye bye.